simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous abordons la question de la Palestine à travers la lutte des prisonniers et prisonnières palestiniennes. Pour cela, nous vous diffusons, lors de l'intégralité de cette heure, un entretien que nous avons réalisé dimanche 26 novembre 2023 dernier avec un des membres du réseau Samidoun. Bonne écoute.
C'est Adèle, je fais partie de Samidoun Paris Banlieue, qui est la section parisienne de Samidoun. Samidoun, c'est un réseau international de solidarité avec les prisonniers palestiniens. On existe depuis 2011 et on est présent dans une quinzaine de pays. Samidoun, ça a été créé en 2011. C'était à ce moment-là en fait qu'une des plus grandes grèves de la faim collective des prisonniers palestiniens, elle s'est mise en place. Et à ce moment-là, en fait, les camarades qui ont créé le réseau se sont rendus compte qu'en Palestine, la voix des prisonniers et des prisonnières, elle était audible. C'est-à-dire que tu as des émissions de radio qui en parlent, tu as des sites qui sont spécialisés dans cette question-là. Les militants, en fait, chaque branche de parti politique, chaque parti de la lutte de libération nationale a une branche dédiée aux prisons. C'est vraiment une question. Et puis toutes les familles, en fait, elles sont concernées par la détention. Donc c'est quelque chose qui est hyper actif, hyper visible en Palestine et dans la diaspora, mais dans les centres impérialistes et en Occident. C'est une dimension qui est pratiquement absente en fait de la lutte de solidarité avec le peuple palestinien. Donc du coup, c'est pour ça que les camarades qui ont créé le réseau, ça leur semblait important de remettre les prisonniers et les prisonnières au centre de l'équation.
Mmh. Alors, ces derniers jours, dans les médias traditionnels, on a pas mal entendu parler justement de cette question des prisonniers due à la décision qui a été prise là de libérer une partie des prisonniers, prisonnières aussi majoritairement palestiniennes en échange de certains otages. Avant de revenir là-dessus spécifiquement, nous on avait envie justement de prendre un tout petit peu plus de recul et donc déjà de revenir sur effectivement la place, le rôle qu'a la prison, la manière dont Israël utilise la prison.
Très concrètement, dans l'État, dans le contexte colonial israélien, on va dire, donc ce qui se passe en Palestine historique, mais c'est le cas en fait dans tous les contextes coloniaux. On peut parler de Kanaki, c'est le cas également, genre dans les Antilles actuellement, mais c'était le cas en fait dans les colonies, dans l'histoire, genre que ça soit l'Algérie, le Vietnam, etc. En fait, c'est que la prison, c'est un moyen de contrôle de la population autochtone. Ça s'exprime comment en Palestine? En Palestine, en fait, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas été confrontée de près ou de loin en fait, à l'incarcération. C'est quelque chose qui touche les Palestiniens et les Palestiniennes, mais en fait, d'où qu'ils soient. C'est-à-dire que c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, c'est pas quelque chose qui concerne que les résistants ou des gens qui pourraient porter des armes. En fait, c'est, t'es un artisan, tu traverses la mauvaise rue pendant un raid de l'armée coloniale, et ben, ils vont te ramasser. ta famille va pas savoir dans quel centre de détention t'es, ça va leur être caché, t'as pas forcément accès à des avocats tout de suite, et donc voilà, tu vas subir un interrogatoire, et donc tu vas être confronté à cette détention-là, à l'appareil répressif colonial. Et donc en fait, toute présence autochtone en Palestine est suspecte. Par exemple, il y a un outil qui commence à être pas mal connu en France, qui est employé par l'État colonial, c'est quelque chose qui date de la Palestine du mandat britannique, c'est la détention administrative. Et en fait, c'est la détention administrative, en fait, c'est un régime de détention qui est de plus en plus utilisé par l'État colonial. Et ça leur permet en fait de détenir un Palestinien ou une Palestinienne sur un temps plus ou moins indéfini, c'est-à-dire que c'est renouvelable à l'infini. Il y a des gens qui passent des années et des années en détention administrative. Sans que l'accusation ait à monter de dossier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier qui est présenté à la personne qui est incarcérée, il n'y a pas de jugement, c'est un tribunal militaire qui statue. L'avocat, il ne sait pas de quoi est accusé la personne qui est en détention administrative, l'accusé lui-même ne le sait pas. En fait, c'est un moyen pour l'État colonial d'enfermer à tour de bras des gamins, des enfants dès l'âge de 13 ans, ça peut être des militants associatifs. Donc voilà, la prison, en fait, dans le contexte colonial, sert à mater la population, sert à lui faire peur. La prison, ça ne concerne pas que les prisonniers, ça concerne aussi leur famille. On voit en fait que c'est comme une tache d'huile, c'est-à-dire que y a un résistant qui va faire une opération, qui va être accusé d'avoir commandité une opération, ou quelqu'un qui est en lien même avec des groupes, de manière très lointaine, il va être en détention. Et souvent, l'État colonial, il va emprisonner aussi sa mère, il va emprisonner son père, ses frères, etc. Et donc, ça fait tache d'huile, en fait. Et donc, ouais, ça permet vraiment d'instaurer la peur dans la population. Ça permet aussi de casser une sorte de normalité dans le tissu social qui fait que tous les jours, il y a des raids en Cisjordanie, tous les jours, il y a des dizaines d'arrestations. Il y a d'autres formes d'emprisonnement qui existent. Je veux dire, tous les prisonniers palestiniens dans les prisons de l'autorité palestinienne, par exemple, c'est pas des prisonniers politiques. Mais en gros, dans les prisons coloniales, les prisonniers palestiniens sont des prisonniers politiques palestiniens parce qu'ils sont enfermés par la puissance occupante, par l'État colonial, et c'est parce qu'ils sont palestiniens qu'ils sont enfermés.
Est-ce que tu aurais quelques chiffres ?
Avant le 7 octobre, avant début octobre, on en était à un peu plus de 5000 prisonniers politiques palestiniens. Dans les 5000, il y avait plus de 150 enfants et adolescents. Il y avait une trentaine de femmes. Et il me semble que tu avais un peu plus de... aux environs de 1200, 1500 détenus administratifs. La situation, elle a évolué très vite parce que, après le 7 octobre, il y a eu un appareil répressif colonial qui s'est mis en branle. Et donc, il y a eu des arrestations massives. Donc, de 5300 prisonniers politiques palestiniens début octobre, on en est très vite arrivé, là, à l'heure actuelle, à 7000. Donc, en un mois et demi, il y a eu... Il y a eu plus de 2000 arrestations, principalement en Cisjordanie. Il y a environ 200 enfants et adolescents, et il y a une soixantaine de femmes. Donc ça, c'était avant les accords d'échange de prisonniers. En plus de ça, il y a des travailleurs gazaouis qui ont été arrêtés très massivement, que ce soit dans les territoires de 48, que ce soit en Cisjordanie, ou même à leur passage hors de la bande de Gaza. Et s'ils avaient un statut spécial, c'était qu'ils n'étaient pas comptés dans les 7000 prisonniers politiques palestiniens. C'était une catégorie à part. Donc c'était en plus des 7000 prisonniers palestiniens, tu as 3000 travailleurs gazaouis. Et au total, il y avait 10000 palestiniens qui étaient retenus captifs. Ce qui s'est passé avec les travailleurs gazaouis, en fait, il y a eu une vague de travailleurs gazaouis qui a été relâchée de ces camps militaires-là et qui ont témoigné. C'était vraiment horrible ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'ils étaient retenus dans des conditions atroces, ils subissaient des tortures physiques, psychologiques, on les humiliait en permanence, il y a des soldats qui prenaient des vidéos avec eux, on les forçait à chanter l'hymne national colonial, à embrasser le drapeau. Il y avait des tabassages, il y avait et ils sont tous revenus avec un numéro de matricule et avec un bracelet bleu. Donc c'était vraiment un truc de déshumanisation de la population palestinienne. Donc voilà à peu près les chiffres.
Justement, ces derniers jours a été mis en avant la question de ces prisonniers, notamment du fait de l'échange qui a été décidé pendant donc ce qui est appelé une trêve. Tout simplement déjà, comment est-ce que vous avez interprété cette décision ?
Nous, on n'a pas à dire si une population qui subit un génocide a le droit de se reposer 4 jours ou pas. Mmh. C'est qu'il y avait 1,5 million de déplacés. Là, on arrive à un point où il y a 20 000 morts dans la bande de Gaza. Si on compte les 14 000 plus les 7 000 qui sont comptabilisés sous les décombres. Et une majorité de femmes et d'enfants. Donc en gros, la trêve de 4 jours, c'est une victoire qui a été arrachée par la résistance et par les martyrs gazaouis de Cisjordanie et du Sud-Liban. Maintenant, nous, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est-à-dire que la résistance, elle appelle à un arrêt du massacre, à un arrêt du génocide. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que 4 jours, c'est juste suffisant en fait pour enterrer les morts. C'est juste suffisant pour constater les pertes humaines, pour constater en fait les ravages matériels qui ont été faits sur la bande de Gaza. Et puis après, l'État colonial, à la fin des 4 jours, il y a de grandes chances en fait qu'il renvoie ses avions, qui rebombardent en fait les mêmes endroits, y compris des hôpitaux, des écoles où s'étaient réfugiés les habitants de Gaza. Donc une trêve de 4 jours, faut pas se leurrer, ça signifie pas en fait l'arrêt du génocide en cours. C'est pour ça que nous ici, on encourage les gens en fait à pas à redoubler de vigilance en fait, à réinvestir en fait à les mobilisations, donc c'est-à-dire aller en manifestation, aller dans les rassemblements qui sont organisés localement dans ton quartier, dans ta fac, de participer aux initiatives qui ont lieu dans ton lieu de travail, etc. Parce que en gros, dès que l'État colonial en fait a annoncé qu'il y avait un accord qui avait été trouvé par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar et qu'il y avait 4 jours de trêve, bah, y a des gens qui se sont fait tirer dessus quand ils essayaient de remonter au nord de la bande de Gaza par les soldats coloniaux. En Cisjordanie, il y a eu des martyrs depuis... tous les jours, il y a des martyrs, en fait, depuis le jour où a été déclarée cette trêve. Tous les jours, il y a des arrestations massives en Cisjordanie. Cette trêve-là signifie pas, en fait, un arrêt de la mobilisation ici. Elle signifie pas l'arrêt des massacres là-bas. Il faut qu'on soit vigilant parce que sinon, la situation se renouvellera. Ce qu'il faut réclamer, ce qu'il faut exiger ici, c'est d'une part l'arrêt de la complicité de nos gouvernements occidentaux et des centres impérialistes avec la machine coloniale israélienne. La première chose, donc c'est un arrêt de la coopération militaire, un arrêt de la coopération politique, économique, etc. Donc ça, c'est en notre pouvoir, en fait. On peut mettre la pression à nos gouvernements pour que ils arrêtent de soutenir l'État colonial. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on porte la revendication de la résistance, qui est un arrêt du génocide en cours, un arrêt des bombardements, un arrêt de la colonisation, et pas juste une trêve de 4 jours. Et donc c'est ça qu'il faut appuyer.
Il y a eu donc des négociations sur qui serait libéré lors de cet échange. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur qui sont ces personnes ? Et les retours qu'on peut avoir de leur part.
La population palestinienne, y compris par des voies pacifiques, a demandé depuis très longtemps la libération, a demandé de trouver une issue à ces incarcérations-là, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi ça concerne des femmes et des enfants ? C'est parce qu'il y en a des deux côtés, et que finalement, je pense que c'est un terrain d'accord qui est facilement trouvable par les deux parties. Les termes de l'accord, pour l'instant, c'est 50... prisonniers de la résistance, femmes et enfants, adolescents, mineurs, contre 150 femmes, enfants, adolescents, prisonniers palestiniens retenus par l'État colonial. Donc il y a un différentiel, il y a un ratio de un colon pour 3 palestiniens. Alors c'est qui les personnes qui sont concernées par c'est qui les Palestiniens qui sont concernés par l'échange? Les deux premiers groupes qui ont été relâchés, c'est des longues peines. Donc c'était un des points de l'accord d'échange, c'est-à-dire que les libérations, elles allaient se faire sur un critère d'ancienneté. C'est-à-dire que plus les détenus étaient incarcérés depuis longtemps dans les prisons coloniales, plus elles avaient une longue peine, plus facilement elles allaient être concernées par cet accord-là d'échange. Et donc, du coup, on voit que y a des femmes qui ont passé 7, 8 années dans les prisons coloniales, qui là embrassent la liberté, qui là vont retrouver leurs proches. Je peux donner des exemples. Il y a toute la génération qui a été détenue pendant ce qu'on appelait le petit soulèvement. Ce que les colons ils ont appelé l'intifada des couteaux, donc ça c'était en 2015-2016. C'était une époque où t'avais beaucoup d'attaques en fait contre des soldats coloniaux. En fait, c'était des femmes la plupart du temps qui allaient attaquer avec des armes blanches des soldats coloniaux. Et donc du coup, les prisonnières qui sont relâchées aujourd'hui, qui font partie des prisonnières en fait les plus anciennes des prisons de l'occupation actuellement, c'est en vérité des jeunes femmes. Qui sont incarcérés depuis 2015 dans des affaires qui sont liées en fait à ce petit soulèvement-là. Donc c'est-à-dire qu'elles ont effectivement attaqué des soldats, ou alors les soldats les ont arrêtés, ont fait feu sur elles, les ont tabassées, ont fait feu sur leur voiture en les accusant d'avoir voulu commettre une attaque au couteau ou une attaque au ciseau, etc. Et donc, dans la plupart des cas, c'est faux. Il y a des enquêtes d'avocats qui ont montré que c'était des accusations sans fondement, etc. C'était juste de la violence primaire et brutale. Mais donc, voilà. Donc, c'est des femmes assez jeunes qui ont la trentaine au max, la vingtaine souvent, qui ont pris des peines qui vont de 11 à 16 ans de prison, qui sont incarcérés depuis 7-8 ans. Dans ce groupe-là de longues peines liées à ce petit soulèvement-là, t'as beaucoup de jeunes femmes qui sont originaires de Jérusalem, qui a un contexte particulier. Il y a une prisonnière qui a une histoire qui est très très emblématique et qui représente énormément de choses, parce que cette prisonnière-là, en fait, elle est au croisement de plein de situations qu'on retrouve dans les prisons coloniales. C'est Isra Jabis. Son visage, il est très connu. En fait, c'est une prisonnière qui a été incarcérée en 2015, fin d'année 2015. Elle vient de Jérusalem. Elle est maman de un enfant. Et c'était une travailleuse. Elle travaillait dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Elle, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle s'habillait en clown et qu'elle faisait des spectacles pour divertir les résidents en maison de retraite et dans les hôpitaux pour enfants. Et donc, un jour, elle sort de son travail. Elle traverse. Elle va rentrer dans son nouvel appartement. Et bref, elle a un accident de voiture, sa voiture elle prend feu, il y a un court-circuit dans l'airbag, ça prend feu, le feu il se propage, elle reste coincée à l'intérieur, elle peut pas sortir, et elle commence à brûler vif quoi. Et heureusement il y a un passant qui arrive à l'exfiltrer du véhicule, mais elle brûle. Et donc il y avait un checkpoint à un peu plus d'un kilomètre de là, donc t'as les soldats... les forces d'occupation qui arrivent, qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ils arrivent, et au lieu de lui venir en aide, évidemment, ils la braquent et ils la laissent brûler vive, en fait, ils lui intiment l'ordre de pas bouger, ils braquent la personne qui l'aidait, et ils la laissent brûler vive à même le bitume, quoi, à même le sol. Et donc au final, elle va se retrouver avec 60% du corps qui est brûlé au premier, deuxième, troisième degré, et les 8 doigts amputés. Et donc elle va être coupée d'une peine qui est de 11 ans de prison, je crois. Pendant ces 11 ans-là, ça va être un vrai calvaire pour elle. C'est-à-dire que, y a quelque chose qui est pratiqué dans les prisons coloniales qui s'appelle la négligence médicale. C'est une politique de négligence médicale volontaire, en fait, de l'État colonial envers les prisonniers politiques palestiniens. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout de soins, en fait, qui sont accessibles aux prisonniers palestiniens. Et au final, on les laisse crever... en fait, on appelle ça la politique de mort lente en Palestine. C'est-à-dire que t'es prisonnier palestinien ou prisonnière palestinienne, t'as un problème de santé, en fait, t'as juste à attendre. On te file des antidouleurs, des trucs du laboratoire Teva, et puis on te laisse agoniser. Donc cette politique de négligence médicale-là, elle a conduit à plusieurs morts dans les prisons coloniales de plusieurs morts de prisonniers palestiniens dans les prisons coloniales. Il y a notamment Saadia Farajallah, qui elle est morte, dans la prison pour femmes de Damone, d'un infarctus. Il y a Nasser Abu Ahmed, qui est mort des suites d'un cancer. Il y a Khader Adnan, qui lui est mort lors d'une prise en charge d'une grève de la faim. Donc le mouvement des prisonniers considère, et la résistance considère, que c'est lié à la négligence médicale. Il y a 800 prisonniers malades dans les prisons israéliennes. On a 250 qui ont des maladies chroniques. Et donc, en gros, c'est des morts à petit feu. Et donc, c'est autant de prisonniers politiques à faire sortir pour la résistance. Par exemple, il y a Walid Daqa, qui est un prisonnier emblématique, qui lui est enfermé depuis près de 37 ans. Et donc, lui, il a une forme de cancer rare, et l'État colonial veut juste, en fait, le voir mourir à petit feu dans les prisons. Et donc, Isra Jabis, cette prisonnière-là, elle rentre dans cette catégorie de prisonniers parce que ses brûlures ne sont pas prises en charge. Elle n'a même pas accès à des pommades pour calmer les brûlures. Elle décrit qu'elle a des sensations... que parfois elle a des sensations de brûlure, en fait, elle a comme la sensation de brûler de l'intérieur, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctement soignées. Elle doit faire plusieurs opérations de chirurgie faciale à cause de son accident, etc. Donc elle rentre dans cette catégorie-là. Elle est à l'intersection aussi de plein de croisements, c'est-à-dire qu'elle fait partie des mères de famille qui sont incarcérés. Les mères de famille qui sont incarcérées, en fait, ça détruit tout le foyer familial. C'est-à-dire que les gamins, ils peuvent difficilement rendre visite à leur mère. Ils peuvent difficilement prendre des nouvelles. Il y a des fois, leurs visites, elles sont refusées de manière totalement arbitraire. Ils grandissent sans l'amour maternel. Ils sont pris en charge par la famille, etc. Donc, Isra Jabis, c'est une des détenues dont la libération est demandée depuis très longtemps par la résistance, par les organisations de la société civile palestinienne, par même Amnesty International. Et donc c'est une des prisonnières que la résistance a réussi à faire libérer.
Hier, c'était la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles en France, qui a lieu maintenant annuellement. Et dedans, il y avait notamment un cortège internationaliste dans lequel il y avait aussi la présence d'un cortège organisé par l'Urgence Palestine. C'est l'occasion, alors, au vu même de tout ce que tu racontes, peut-être de remettre en avant leur rôle au sein de la société palestinienne.
Pourquoi c'est logique qu'il y ait une présence pro-palestinienne, de solidarité avec la Palestine, et une présence palestinienne, parce que tu as des organisations de la diaspora palestinienne qui étaient présentes dans notre cortège. Pourquoi, en fait, c'est logique qu'on soit présent à cette manifestation-là contre les violences sexistes et sexuelles? C'est parce que, en fait, dans le contexte colonial, tu as l'ensemble de la population colonisée qui est victime de la violence du colonisateur. Et les femmes, de par leur place dans la société, palestinienne, mais dans toutes les sociétés, elles subissent cette violence-là de plein fouet. C'est-à-dire que souvent, elles sont au centre du fonctionnement de la société, elles sont au centre de la cellule familiale, et donc du coup, elles subissent l'incarcération du mari, elles subissent l'incarcération de l'enfant. Elles vont être, comme je l'avais dit, par exemple, un résistant, pour faire pression contre lui, on va incarcérer sa sœur, on va incarcérer sa mère, et donc il y a des femmes de la prison pour femmes qui sont incarcérées pour ça. Mais comme elle touche toutes les composantes de la société colonisée, elle produit aussi une réaction et une résistance de toutes les composantes de cette société-là. Et donc évidemment que les femmes palestiniennes, en fait, c'est pas juste des spectatrices passives de l'oppression des hommes palestiniens. Depuis le début, en fait, de la lutte de libération nationale, les palestiniennes, en fait, elles ont résisté par tous les moyens possibles. Elles ont résisté, en fait, en tenant bon, juste, en fait, en transmettant l'histoire de leur famille à leurs enfants, en apprenant, en fait, comment résister à leurs enfants. Elles ont résisté en transmettant de la culture, donc que ça soit la culture vestimentaire, la culture culinaire, que ça soit la musique, etc. Et la culture, c'est une des meilleures armes, en fait, pour résister et pour lutter contre le colonialisme, parce que le colonialisme, en fait, veut l'effacement de la société colonisée. Et quoi de plus efficace pour effacer une, une société que d'effacer sa culture. Et donc du coup, en remettant la culture au centre de la lutte de libération nationale là, en la mettant au centre du combat, eh ben, on dynamise la société, on transmet quelque chose aux générations futures, et donc on s'oppose de manière concrète au colonialisme. Et donc les femmes, en ayant cette part-là archi importante dans la société, dans la culture palestinienne, elles ont résisté. Culturellement. Elles ont résisté aussi en prenant les armes. C'est-à-dire que très très tôt, en fait, y avait des femmes qui ont pris et qui ont joué un rôle extrêmement important dans la résistance armée en Palestine. Soit en intégrant des branches armées de partis politiques existants, ou en faisant des actions individuelles, en s'opposant physiquement, en fait, comme je racontais tout à l'heure pour le petit soulèvement, à la présence militaire dans leur ville, etc. Et il y a aussi une résistance de la société civile qui rentre dans un autre cadre, donc qui va être plutôt dans l'engagement associatif. Et donc ça, les femmes, elles jouent un rôle extrêmement important. En résistant, elles subissent un durcissement de la répression de l'État colonial. À la prison pour femmes, par exemple, il y avait... une représentante d'un parti de gauche du Front Populaire de Libération de la Palestine, Khalida Jarrar, qui était incarcérée. C'était une élue, elle avait un statut tout à fait légal. Et donc elle a été incarcérée à la prison pour femmes de Damon. T'avais une représentante de l'Union des Comités des Femmes aussi, donc celle qui gérait l'Union des Comités des Femmes, qui a été incarcérée. Elle avait tâche administrative, associative, d'une ONG qui était reconnue, etc. Et il y a des journalistes, il y a des étudiantes aussi qui font partie d'organisations étudiantes et qui sont pour la plupart déclarées illégales et interdites par l'État colonial, qui finissent en prison. Donc en fait, les femmes, elles font partie de la résistance du peuple palestinien. Et donc, pourquoi c'est logique en fait d'afficher une présence palestinienne dans la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles? C'est parce que le colonialisme est une machine violente. Est une machine qui engrange de la violence, qui sème la mort et la destruction partout où elle passe. Et cette violence-là, elle est dirigée contre les femmes. Et donc, il faut visibiliser en fait le combat quotidien des femmes palestiniennes. Encore plus, quand on voit le ratio de femmes qui sont comptabilisées dans les victimes du génocide. Donc pour nous, c'était tout à fait logique.
والله يا بلال يوم الكرامة قبل ترابك والله يا بلال يوم الكرامة قبل ترابك والله يا رصاص والله يا رصاص من فوق الجبل لالي أحمد سعادات وجيوش العدا ذهابك والله ورجال والله ورجال لهموم الوطن شيالي والله يا ابو علي مصطفى والمجد بكتابك والله يا ابو علي مصطفى والمجد بكتابك والله والراح ترخص لا فلسطين ولا ترابها الغالي.
Et bien voilà, ce 25 novembre 2023, on est dans la manifestation contre les violences faites aux femmes. C'est une manifestation internationale, mais on est dans la manifestation parisienne. Et là, je suis avec un cortège soignant et soignante contre le massacre à Gaza. Qu'est-ce qui vous a aujourd'hui amené sur cette manifestation?
Alors, tout d'abord, on voulait dénoncer le massacre actuellement qui se passe à Gaza. Nous, on est des soignants, on s'est sentis très impliqués par le contexte. Quand on a vu que les hôpitaux de Gaza se faisaient bombarder, ensuite on n'ignore pas que dans la santé, il y a quand même beaucoup de soignantes, pas seulement des... beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et en fait, on voulait porter la voix des soignantes contre le massacre à Gaza, notamment parce qu'il y a énormément de femmes qui sont actuellement... soit directement en danger de mort, soit malheureusement déjà morte à Gaza. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour aussi montrer que le contexte des violences faites aux femmes, ce n'est pas que en temps de paix, ce n'est pas que en temps de démocratie, c'est aussi dans des contextes très instables, dans des moments de guerre, et il ne faut pas les oublier.
Vous venez d'hôpitaux différents ou d'un seul hôpital ?
On vient de différents hôpitaux, de professions différentes. Il y a des aides-soignants, il y a des infirmières, il y a des IBOD, il y a toutes sortes de professions du milieu hospitalier. Et aujourd'hui, dans la manifestation pour les violences faites aux femmes, on voulait évidemment marquer notre soutien à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est importante. Et d'ailleurs, en tant que soignants et soignantes, en fait, on en voit directement les conséquences, autant physiquement, psychologiquement, sur les femmes. Et on voulait spécifiquement marquer notre solidarité internationale avec les Palestiniennes, parce qu'aujourd'hui, il y a 7 femmes qui sont tuées toutes les 2 heures en Palestine, chaque jour. Il y a 180 d'entre elles qui accouchent sans eau, sans antalgique, sans anesthésie pour tout ce qui concerne les césariennes, etc. Sans électricité pour les incubateurs et sans fourniture médicale. On a vu aussi les situations par rapport aux bébés prématurés. On a vu les histoires tragiques de femmes qui viennent accoucher et qui ont pas, qui reçoivent pas les soins nécessaires et qui se retrouvent à la rue avec des bébés sans eau, sans électricité, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est cette solidarité envers les femmes palestiniennes qu'on voulait particulièrement exprimer, et aussi la solidarité internationale des femmes ici à Paris, dans le monde entier. Pardon.
Comment vous voyez justement cette situation des femmes, et j'allais dire des femmes soignantes aujourd'hui dans cette société et au-delà ?
Catastrophique, parce que dans le monde du soin, on sait que la majorité sont des travailleuses. On sait que les conditions de travail, le matériel manque. On sait aussi qu'on est les premières à faire face aux violences, que ça soit sociales, comme j'ai dit, ou sanitaires, de manière générale, sur les femmes, notamment que ça, dans les maternités ou dans les hôpitaux pédiatriques. Au quotidien, en fait, on répare les dommages collatéraux de cette société patriarcale, quoi.
Aujourd'hui, il y a une partie des libérations qui a été effectuée. La plupart de ces femmes, elles vont retourner dans des territoires qui sont ceux de la Cisjordanie. En réalité, cette trêve, telle qu'elle est appelée, va aussi s'arrêter, sachant que est beaucoup mis en avant, et pour des raisons tout à fait justifiées, Gaza, mais qu'en réalité, le conflit se manifeste sur l'ensemble des territoires palestiniens.
Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, la trêve, elle concerne uniquement Gaza. Elle concerne Gaza et, comme je disais tout à l'heure, en Cisjordanie, en fait, ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que la nuit passée, il y a eu des dizaines d'arrestations, il y a eu des martyrs, c'est-à-dire qu'il y a eu une offensive, il y a eu un raid de l'armée coloniale sur la ville de Jénine. Toutes les nuits, l'armée coloniale fait des raids dans les villes importantes comme Naplouse, Tulkarem, Jénine. Et donc, du coup, dans ces raids-là, ils vont éventrer la ville, c'est-à-dire qu'ils vont passer avec des bulldozers, ils vont complètement détruire les rues, les rendre impraticables, ils vont faire des descentes, donc c'est-à-dire ils vont faire des raids et emprisonner des habitants. Et il y a un phénomène là qui s'est observé là, depuis le 7 octobre, c'est la destruction des monuments des martyrs. Donc la nuit du jour où ont été signés les accords de la trêve, là, qui a annoncé une trêve à venir, il y a eu 90 Palestiniens qui ont été arrêtés en Cisjordanie. Donc la Cisjordanie, elle ne fait pas partie de cette trêve-là. Comment c'est perçu et ça aura quel impact la libération de ces prisonniers-là? En vérité, c'est pour ça que l'État colonial n'aime pas quand il y a des libérations arrachées par la résistance. C'est parce qu'en fait, ça donne espoir et ça donne vraiment de la force de manière collective, en fait, à l'ensemble de la société palestinienne. Là, on voit que, par exemple, au début de journée où allaient se passer les libérations, l'État colonial avait menacé les familles avait même incarcéré des membres de familles de prisonniers qui devaient être libérés, en leur disant: ok, si vous faites des célébrations publiques, collectives dans la rue, on va emprisonner tel ou tel membre de la famille. Les célébrations collectives, elles avaient été interdites. Peu importe. Les habitants, ils étaient sortis massivement dans la rue pour accueillir les prisonniers, pour accueillir les jeunes qui sortaient de détention, pour accueillir les femmes. Voilà l'impact que ça a dans la société palestinienne. Ça lui montre que, en fait, le chemin de la libération, il est possible. quand tu me posais la question de... et c'était intéressant comme question, quand tu me demandais un peu qu'est-ce qui allait se passer pour ces femmes-là, pour ces enfants-là, pour ces adolescents-là, une fois libérés, bah, y a quelque chose qui peut se passer, c'est qu'elles retombent en fait dans les prisons de l'occupation, parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que il y a énormément de prisonniers qui font des allers-retours, c'est-à-dire que qui sont des cibles de choix en fait pour l'État colonial, et donc à chaque raid, ils sont ciblés de manière répétée par les arrestations. Et donc en fait, ils passent quelques mois en prison, ils sortent, il y a un raid, leur habitation elle est connue. On sait qu'ils sont militants, on sait qu'ils ont déjà eu des affaires où ils sont où leur nom a été cité, etc. Donc du coup, on investit, ou alors qu'ils sont liés avec des membres de la résistance ou supposés de la résistance, et donc du coup, on va les réincarcérer, etc. Donc dans les grandes figures, dans les prisonniers connus, t'as beaucoup de gens qui ont fait des allers-retours constants dans les prisons de l'occupation. Donc finalement, c'est une histoire qui s'arrête jamais. C'est que ça touche toutes les familles palestiniennes, et en plus ça les touche pas qu'une fois, c'est quelque chose qui commence dès l'adolescence, dès l'enfance, parce que à 13 ans tu peux être à partir de l'âge de 13 ans tu peux être incarcéré, et donc du coup après ça va te suivre toute ta vie. C'est que c'est pas une histoire, c'est pas une page qui se clôt, qui se ferme, c'est-à-dire que même là dans les prisonnières actuelles, dans la prison pour femmes, mais c'est quelque chose qui concerne évidemment en grosse majorité les hommes, parce que les femmes, c'est une toute petite parcelle de l'enfermement colonial. Et donc du coup, en fait, les prisonniers palestiniens, ils font des allers-retours constants.
La question alors, c'est aussi celle de se demander comment ça se passe, là, dans les prisons.
Alors cette question des conditions de détention dans les prisons coloniales, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, en temps normal, il y a cette question-là déjà de la négligence médicale, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, la négligence médicale, c'est le fait que, en fait, les prisonniers et les prisonnières palestiniennes, elles n'ont pas accès aux soins qui leur sont nécessaires. Et donc, finalement, quand on a des maladies chroniques, quand on a des cancers, quand on a besoin de soins, des problèmes neurologiques, des problèmes psychologiques, etc., finalement, il y a une politique qui est mise en place dans les prisons coloniales qui nous empêche d'avoir accès aux soins. Il y a aussi une politique d'isolement. Donc en fait, ça consiste en quoi ? Les détenues qui peuvent représenter une menace politique, elles sont souvent isolées du reste des prisonniers. Ça, c'est des mesures punitives, donc c'est les représentants des détenus, c'est un peu les leaders du mouvement des prisonniers dans les prisons, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prisons, le mouvement des prisonniers est hyper organisé, c'est-à-dire que chaque parti politique a une branche des prisons, et donc du coup, les prisonniers politiques, ils peuvent trouver leur affiliation dans les prisons, et donc du coup, en fait, ça permet de retrouver une notion de groupe, ça permet en fait d'avoir accès à de la formation politique, la formation religieuse, culturelle, etc. Et ça permet de supporter le coût de l'enfermement et de faire finalement de la prison une école de formation politique. Par exemple, c'est le cas avec des cadres en fait du Front Populaire de Libération de la Palestine, dont Ahmed Saadat, qui est le secrétaire général du FPLP. L'État colonial va les cibler prioritairement en fait pour détruire, pour essayer d'affaiblir en fait le mouvement des prisonniers, et donc ils vont isoler ces représentants-là, ces cadres-là, mais aussi ils vont isoler des membres les plus fragiles du mouvement des prisonniers, des prisonniers politiques palestiniens. Par exemple, il y a un cas, c'est Ahmed Manasra, qui lui, c'est un jeune homme qui a été incarcéré, je crois, à l'âge de 13 ans, lorsqu'il était tout petit. Il a passé plusieurs années en isolement. Il a développé des troubles psychologiques, en fait. Et donc, du coup, là, il arrive à la vingtaine. Il est toujours incarcéré. Il y a aussi le cas à la prison pour femmes d'une prisonnière qui a des troubles neurologiques et donc, en fait, qui a été mis en isolement. Et ça a empiré son état. Il y a aussi quelque chose qui est monnaie courante, en fait, pour les prisonniers, c'est qu'en fait, leur jugement, il va être repoussé. Et il va s'étaler dans le temps. Donc du coup, ça va prendre un an, deux ans, trois ans. Et c'est des allers-retours constants dans un bus de transfert, en fait, où les prisonniers, ils sont exfiltrés, enfin, ils sont sortis de la prison. Ils sont constamment attachés. Il y a des détenus malades et blessés qui transitent par ce bus-là dans des conditions atroces. Et donc ils font le tour des prisons comme ça pour récolter les prisonniers, ils les emmènent au tribunal militaire. Bah en fait leur audience est reportée, ils n'ont pas plus d'indications. Donc du coup ils font un aller-retour archi épuisant en bus avec des brimades des gardiens, etc. Ça peut servir aussi de pression psychologique. Finalement, t'es tout le temps dans l'incertitude, tu sais pas quand est-ce que ta sentence elle va tomber, ça répond à aucune logique. Il y a aussi le cas des interrogatoires. Les interrogations, c'est des moments extrêmement violents, extrêmement humiliants, où les inspecteurs ils jouent sur les tabous religieux, ils jouent sur les tabous familiaux, ils vont faire pression sur la famille. Donc des fois, ils font venir en fait des membres de la famille pour assister à l'interrogatoire et leur montrent des photos, des vidéos. Il y a pour les femmes, il y a des cas où en fait il y a des femmes qui se retrouvent invectivées par plusieurs soldats, par plusieurs gardiens, menacées, etc., menacées de viol, menacées de torture physique, etc. Il y a des tortures physiques qui sont effectives, des tabassages en règle, et cette phase d'interrogatoire-là, elle est extrêmement violente pour les prisonniers palestiniens. Et puis ensuite, ce traitement-là, il s'est empiré après le 7 octobre. Déjà, en temps normal, le mouvement des prisonniers, il a ses martyrs. Il y a Khadr Adnan, Nasser Abou Ahmed, Saadia Farajallah pour les plus récents. Mais il y a en vérité 243, depuis 1967, il y a 243 martyrs du mouvement des prisonniers. Et il y en a 17 dont les corps ils sont retenus par l'État colonial. Et là, ça s'est aggravé depuis le 7 octobre parce qu'il y a eu une augmentation du niveau de violence dans les prisons, des tabassages réguliers dans certaines prisons comme Megiddo, la prison de Ofer. Bref, donc depuis le 7 octobre, il y a eu 6 martyrs dans les prisons coloniales, et 6 martyrs dans un temps aussi court, c'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Et donc c'est des faits qui sont localisés dans certaines prisons. Donc il y a 2 martyrs à la prison de Megiddo et 2 martyrs à la prison de Ofer, et c'est des cas où c'était des prisonniers qui ne souffraient pas de problèmes de santé, des prisonniers qui ont été vus en bonne santé quelques heures auparavant et qui après sont déclarés morts. La mort, elle est maquillée, la mort, elle est reconnue un ou deux jours après. Et dans des circonstances, on ne connaît pas les circonstances de la mort, les corps ils sont retenus par l'État colonial. Il y a plusieurs témoignages, notamment de jeunes qui sont sortis via les accords d'échange, qui racontent, donc du coup des jeunes de Megiddo qui racontent comment les matons en fait ils tabassaient les prisonniers dans ces prisons là. Il y a des tortures physiques, il y a des vidéos qui sont sorties où on voit des prisonniers agenouillés, immobilisés pendant un temps très long, menottés, les yeux bandés, à même le bitume, et raillés par les gardiens. Il y a des descentes qui sont organisées dans les cellules où les gardiens ils font usage de gaz lacrymogène, ils tabassent les détenus, ils les sortent violemment des cellules, etc. Ça, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière tout au long de l'année, mais là, depuis le 7 octobre, il y a eu une hausse de cette violence-là. Il y a aussi des cas d'isolement collectif, c'est-à-dire que les prisonnières, par exemple, elles racontent qu'elles ne pouvaient pas sortir. Toute la journée, depuis le 7 octobre, en fait, elles restent cantonnées en fait, à leur cellule, et elles peuvent sortir que 20 minutes pour faire leur toilette. Dû en fait, à l'augmentation des arrestations, il y a un surpeuplement massif dans les prisons, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a des détenus qui dorment par terre, à même le sol, donc ça pose des questions d'hygiène. Il y a des restrictions qui ont été mises en place, notamment au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que maintenant, les détenus ils peuvent plus aller cantiner. Ils ont des rations de nourriture qui sont extrêmement faibles et qui sont à la limite du comestible, en fait. Et une impossibilité à voir leur avocat et à recevoir des visites de leur famille. Donc ça, c'est depuis le 7 octobre. Donc c'est représentatif, en fait, de la violence quotidienne que doivent endurer les Palestiniens et les Palestiniennes. C'est-à-dire que ils sont soumis à l'arbitraire des soldats en passant les checkpoints, lors des raids sur la ville, en allant visiter des proches en détention, lorsqu'ils croisent un colon qui a une latitude totale, ils n'ont aucun compte à rendre, les colons, dans la manière dont ils se comportent en Cisjordanie, et alors que les Palestiniens, eux, doivent faire attention à tout, et c'est extrêmement fréquent qu'ils subissent l'arbitraire et les abus des soldats colons.
peut terminer l'émission sans faire un appel à la solidarité, et notamment à la solidarité internationale. Vous, quel serait peut-être le discours que vous voudriez tenir ?
C'est archi important comme question, parce que évidemment que la solidarité, en fait, elle monte. En fait, il y a une montée de la mobilisation à l'international, donc ça, on l'observe en France. Lorsqu'il y a des offensives, notamment des bombardements sur la bande de Gaza, ça c'est quelque chose qu'on observe à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens dans les manifestations, le sujet il revient dans le milieu militant, il revient sur la place publique, dans la société, etc. Donc on a besoin en fait que ce sujet-là il soit pris en main en fait dans l'instant présent. En fait, on a besoin d'une mobilisation massive. Par contre, il ne faut pas que cette mobilisation-là elle faiblisse tout au long de l'année. C'est-à-dire que quand il y a un arrêt des bombardements, si la résistance elle arrive à arracher un arrêt des bombardements et un arrêt du génocide, donc on ne parle pas de trêve, on parle de quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'un retrait des troupes de l'État colonial, on parle de réparation matérielle, économique, etc. On parle d'un arrêt des bombardements massifs et du massacre en fait, et du génocide de la population à Gaza. Il ne faut pas que la mobilisation elle faiblisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, y a un massacre qui est fait à petit feu, constant, en Cisjordanie. Il y a des frappes de drones, il y a des destructions de maisons, donc il y a des morts toute l'année en fait, en Palestine. Et surtout, le truc le plus important, c'est de garder en tête la normalité en fait, de l'existence de l'État colonial. C'est-à-dire que si on se concentre uniquement sur les agressions sur Gaza, ça voudrait dire qu'on oublie que la colonisation, elle date de 1948. On doit garder en tête, quand on se concentre sur la cause palestinienne, que c'est une question qui date de 1948. C'est pas une question qui surgit tous les étés, etc., parce qu'il y a des roquettes qui sont lancées depuis Gaza. Ça, c'est un discours qu'on entend en Occident. La réalité, c'est qu'en 1948, il y a eu la création d'un État colonial. Il y a eu 530-540 villages qui ont été détruits. Il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont dû fuir, qui se sont retrouvés réfugiés, qui se sont retrouvés exilés. Il y a eu une destruction en fait de la Palestine historique et l'implantation d'une colonie occidentale. Et donc du coup, c'est l'origine de la violence qu'on observe à l'heure actuelle. Et c'est important de le garder en tête. Même quand il n'y a pas de bombardement, c'est l'existence même du peuple palestinien représente une menace pour l'État colonial. C'est la base même du colonialisme, encore plus du colonialisme du peuplement. Le colonialisme de peuplement vise à à spolier la terre, à asservir une population qui tend à être minoritaire, une population autochtone qui tend à être minoritaire, et à avoir le contrôle politique, militaire, économique et l'accès aux ressources. Et c'est ça le projet colonial en Palestine. Donc, nous, il y a des choses qui nous paraissent extrêmement importantes. C'est de parler aussi de la résistance en fait, des Palestiniens de 48, donc ce que l'État colonial appelle les Arabes israéliens. Nous, on les appelle les Palestiniens de 48, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont dans le cœur même de l'État colonial. Ce sont des Palestiniens qui n'ont jamais arrêté de résister. Il y a des cas qui sont très emblématiques, comme Walid Daka, comme Shadela Abu Ayad, qui est enfermé actuellement. Il y a autre chose, c'est que la Palestine, c'était pas une terre sans peuple pour accueillir un peuple sans terre. C'est-à-dire que l'État colonial, il s'est basé sur des massacres, il s'est basé sur des spoliations de terres, sur les destructions de villages et sur des expulsions massives de Palestiniens. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 70% de la population de Gaza qui provient de vagues successives de réfugiés qui sont originaires de la Palestine historique. En Cisjordanie, il y a aussi des gros points de fixation, donc des camps où se sont établis et où finalement qui sont devenus des camps en pierre, avec des vrais immeubles, des vraies maisons, etc. Donc nous, quand on nous pose cette question-là de comment et pourquoi continuer la mobilisation s'il y a un arrêt des bombardements, on dit que nos gouvernements ont une responsabilité historique dans la colonisation de la terre de Palestine. C'est que la terre de Palestine, elle a été colonisée dans une dynamique qui partait de l'Occident et qui a été favorisée par des puissances comme la France, par des puissances comme l'Angleterre, etc., historiquement. Et donc, nous, on doit se mobiliser pour épauler en fait la lutte de libération nationale et pour s'opposer au vol et au nettoyage ethnique d'un peuple sur sa terre, quoi. Comment on se mobilise ? Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires pour se mobiliser efficacement en solidarité avec le peuple palestinien. Il y a une chose qui est accessible pour tout le monde, c'est le boycott. C'est qu'on choisit à qui on donne de l'argent et il y a certaines compagnies, certaines entreprises à qui on va refuser en fait de donner de l'argent. C'est qui ? C'est des compagnies en fait qui sont liées à l'État colonial et qui font des profits sur la colonisation de la Palestine. Il y en a certaines qui sont très connues et nous, on insiste pour cibler les actions de boycott sur quelques entreprises pour les affaiblir et pour que ça impacte durablement. Donc il y a des campagnes contre Carrefour qui a des enseignes dans les colonies illégales de Cisjordanie. Il y a une campagne contre AXA, il y a une campagne contre HP qui fournit du matériel technologique. Il y a une campagne contre Puma qui est un sponsor de plusieurs équipes des colonies. Et il y a une campagne contre le laboratoire Teva. On refuse de nourrir en fait une machine de nettoyage ethnique, une machine de colonisation, et on choisit à qui on donne nos sous. Jusque là, c'est pas très difficile. On est présent massivement en mobilisation et en manifestation. C'est-à-dire qu'au lieu de manger un resto avec ses potes, on se dit qu'on profite d'un cadre de mobilisation et on va en manifestation pour que les Palestiniens ils voient en fait qu'il y a un appui massif partout, et y compris dans les centres impérialistes et occidentaux. Et faire des manifestations en France, c'est aussi mettre la pression sur nos gouvernements, et on a vu que ça leur plaisait pas, parce qu'il y a eu, notamment là, tout au long du mois d'octobre, il y a eu énormément de manifestations, de rassemblements qui ont été interdites pour des raisons totalement arbitraires et hors sol. Il y a une troisième chose, c'est une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est de visibiliser les trajectoires, de visibiliser les témoignages et les récits palestiniens. C'est-à-dire que il y a une diaspora palestinienne en France, il y a des Palestiniens qui proposent des récits et qui sont trouvables en fait sur les réseaux sociaux. Donc même si on ne parle pas de la diaspora palestinienne en France, mais des journalistes, des artistes anglophones, etc., on peut les suivre. Il faut déplacer le curseur et se concentrer sur ce que les Palestiniens ils ont à nous dire, sur qu'est-ce qu'ils ont, comment ils perçoivent leur lutte de libération nationale, comment est-ce qu'ils veulent qu'on s'investisse en solidarité avec eux, quels sont les points importants et sur lesquels ils voudraient qu'on agisse. Il faut écouter leur récit, juste arrêter d'écouter le récit colonial, se concentrer sur le récit palestinien. Et je finirai sur ça, c'est une chose qui... Et une des plus importantes pour nous, Samidoun, parce qu'on a un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, c'est qu'il faut savoir que dans les pays européens et dans les soutiens occidentaux en fait, de l'État colonial, il y a des prisonniers de la cause palestinienne. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont milité en solidarité avec la Palestine. Donc, un des meilleurs moyens d'agir en solidarité avec la résistance palestinienne, d'agir en solidarité avec le peuple palestinien, c'est d'être actif ici sur les choses avec lesquelles on a prise. Et donc on a prise sur la libération ou pas de prisonniers dans les prisons françaises, dans les prisons aux Pays-Bas, dans les prisons en Angleterre et aux États-Unis. Il y a des cas qui sont très connus. Il y a Georges Abdallah, qui est un communiste libanais, combattant de la résistance palestinienne, qui est enfermé depuis 1984 en France, libérable depuis 1999. Donc l'État français le maintient en prison alors qu'il est libérable dans le droit français. Et exiger la libération de Georges Abdallah, c'est agir de manière concrète pour en soutien avec la résistance palestinienne. Nos camarades de Samidoun Allemagne, ils font face à une vague de répression. Il y a eu des perquisitions dans 6 domiciles de nos militants. L'organisation a été classée comme organisation interdite en Allemagne. Il y a 3 militants à nous qui sont menacés d'expulsion, donc c'est-à-dire qu'ils vont être expulsés en direction du Liban et de Jérusalem. Il y en a des camarades qui ont la nationalité syrienne, mais des Palestiniens de Syrie, donc ils ne peuvent pas être expulsés. Et donc ça les fait tomber dans des limbes administratives. Donc cette répression de Samidoun en Allemagne, c'est une des preuves aussi que les centres impérialistes et les États occidentaux, c'est les plus fervents soutiens et défenseurs de l'État colonial, et ils agissent en fait comme des métropoles, c'est-à-dire qu'ils épaulent en fait l'État colonial et ils l'aident en réprimant les mouvements de solidarité avec la Palestine à effectuer la colonisation de la Palestine historique, le nettoyage ethnique et le génocide en cours.
Quoi qu'il en soit, des prochaines annonces dans les grands médias ces prochaines semaines, il restera primordial de s'informer, de venir aux manifestations pour la lutte contre toutes les colonies et la disparition de l'impérialisme. Si on a besoin d'avoir des slogans universalistes qui fonctionnent à l'international pour toutes et tous et qui permet par ailleurs de faire le lien avec les grandes puissances impérialistes et qui participent aujourd'hui du soutien à l'attaque de la Palestine.
De ouf. Et je sais que tu veux finir, mais ça c'est cadeau. Les auditeurs là, de l'actu des luttes, celle-ci elle est pour vous. Donc du coup, pour rebondir, on va placer quelques citations. La première, c'est de Rassane Kanafani, un des résistants les plus importants en fait du FPLP, et qui était un écrivain très renommé à l'international de la littérature palestinienne, qui lui disait, voilà, l'impérialisme a étendu son corps sur le monde entier, la tête en Asie, le corps au Moyen-Orient, et ses artères en Afrique et en Amérique latine. Et il disait, partout en fait où on fragilise, partout en fait où on impacte l'impérialisme, ça donne de l'espace et ça sert la révolution mondiale. Et donc du coup, si ici on agit, mais pas que en solidarité avec la Palestine, mais à partir du moment en fait on crée une brèche dans les mouvements sociaux, dans les mouvements qui s'opposent, je sais pas, en intervention, dans les interventions de la France-Afrique, voilà, sur le territoire africain, dans l'ingérence au Moyen-Orient, dans son appui à l'État colonial, mais quand aussi en fait on aide de manière concrète les mouvements indépendantistes, que ça soit aux Antilles, que ça soit en Guyane, que ça soit au Kanaky, tout ça, ça sert la libération d'autres peuples, y compris le peuple palestinien. Donc, on a des intérêts communs ici, en tant qu'exploités, à soutenir la lutte de libération nationale palestinienne, parce que, c'est une deuxième citation, en libérant la Palestine, ils nous libèrent nous-mêmes. Finalement, en se mobilisant collectivement, en soutien avec ceux qui libèrent la Palestine, donc les résistants palestiniens, on apprend à se mobiliser collectivement et en fait on redécouvre quelque chose de notre humanité parce qu'on s'oppose à la forme d'humanité qui est en cours en Palestine, qui est le colonialisme et donc qui est la négation de l'humanité des Palestiniens. Et au contraire, si on oublie la Palestine, et ça c'était une phrase d'un communiste libanais qu'on aime beaucoup qui est Sama Idriss, et donc lui disait, si nous abandonnons la Palestine, nous nous abandonnons nous-mêmes.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.